prêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien Moraço qui est en train de mettre.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous du vendredi, l'avant-match, le sport, chaque jour sur Média, une émission d'une heure. Notre ami Nagy à la réalisation et toute l'équipe technique, bien sûr, pour assurer cette émission. Vous le savez également, eh bien, à partir de lundi, la nouvelle grille proposée par Média. Aujourd'hui, donc, on va parler essentiellement de la Ligue des Champions. C'était la première journée cette semaine. L'effet marquant, bien entendu, la défaite du champion titre Liverpool qui a chuté à Naples 2-0 pour les Italiens. Le Paris Saint-Germain qui a surclassé le Real Madrid 3-0. On a parlé, bien entendu, de cette victoire du doublé de Di Maria, mais on peut parler d'un joueur sénégalais qui a brillé de mille feux. Et puis également, nous parlerons du football africain, puisque vous le savez, le champ, les éliminatoires du championnat d'Afrique des joueurs locaux avec un choc contre le Maroc et l'Algérie. Ça sera en Algérie demain. Le football espagnol, ça sera tout à l'heure, anglais et également allemand, mais d'abord l'Italie et la France et l'Afrique. L'Italie, Simone Rovera. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. L'Italie, futur champion de la Ligue des Champions. Je l'ai dit déjà.
Voilà, donc Naples qui a fait chuter le champion d'Europe et vainqueur de la Supercoupe. Il s'agit de Liverpool. D'ailleurs, les Anglais, eh bien, Liverpool battu, tout comme Chelsea à domicile par Valencia. Tottenham accroché, finaliste de la dernière édition. Seul Manchester City a tiré son épingle du jeu, tout comme le Paris Saint-Germain. Le PSG, privé de ses stars, a réussi à battre le Real Madrid, également amoindri par quelques absents également avec nous. Hervé Penaud, bonsoir Hervé.
Bonsoir à vous les amis. Vous avez vu ce que c'était qu'une équipe qui allait terroriser l'Europe. Eh ben vous l'avez vu. Vous l'avez vu mardi.
Voilà donc
mercredi pardon.
Mercredi voilà, le mardi il y avait ce match entre le Borussia Dortmund et le Barça. On évoquera cette rencontre tout à l'heure dans la deuxième partie avec David Lortolari et également notre ami Frédéric Kermel. Il y avait également un match important, la Juve qui se produisait à Madrid en Espagne face à l'Atlético. Eh bien la Juve a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras puisque la victoire, l'égalisation de l'Atlético, comme souvent, c'était pendant les temps additionnels de buts partout. Avant d'évoquer la Ligue des Champions, un petit mot du football africain. Rapidement, on va parler de l'international sénégalais du Paris Saint-Germain, qui a fait un match plein l'autre jour face au Real Madrid. Mais d'abord, le CHAN, on rappellera que le championnat d'Afrique des joueurs locaux a été remporté par le Maroc en 2018. Hervé Penaud, vous y étiez présent, vous avez vu cette équipe, même si certains se posent la question, la nécessité de ce championnat, de cette épreuve, du moment que surtout en ce qui concerne le Maroc, peu de joueurs accèdent à l'équipe première. Peut-être que ça va changer. Ce match Algérie-Maroc intervient quelques semaines après la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est le joueur local, mais n'empêche, ça booste en quelque sorte ce genre de performance pour l'Algérie, Hervé.
Absolument, j'en parlais déjà les années précédentes, hein, que l'équipe du Maroc, finalement toutes les équipes du Maroc avaient été boostées aussi par ce que réussissaient les A, et on l'avait vu avec, lors du CHAN, hein, qui avait quand même servi El Kabi de pouvoir se faire une place dans l'équipe du Maroc. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'existence de cette compétition, alors qu'elle avait été décriée, moi-même au départ j'étais plutôt défavorable à cette idée-là, mais c'est plutôt maintenant institué dans le football africain, et on se rend bien compte que certains pays, par exemple, pour eux, c'est une importance capitale, j'allais dire, parce que, alors autant le Maroc, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a la volonté de gagner, évidemment, une Coupe d'Afrique des Nations, mais par exemple, un CHAN au Rwanda, vous aviez tous les Rwandais derrière leur équipe nationale, parce qu'il y avait la sensation qu'il y avait un exploit possible, un exploit à créer, qui ne sera pas possible, évidemment, en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je trouve que ça s'est quand même installé dans le paysage du football africain, et c'est une compétition qui a beaucoup d'importance, alors même si, effectivement, le souci du foot africain en général, c'est de multiplier les compétitions et finalement, au bout d'un moment, vu qu'elles sont très rapprochées les unes des autres, eh ben, se perdre un peu dans tout ce qui se passe. Mais pour l'instant, je trouve qu'en quelques éditions, eh ben, le CHAN a quand même réussi à écrire quelques lettres de noblesse et d'une certaine manière, pour moi, c'est une compétition qui a totalement aujourd'hui sa place dans le paysage et ça permet à des joueurs locaux qui jouent dans les championnats locaux de pouvoir enfin se montrer. Même si moi, j'ai toujours été pour le fait qu'on ne parle pas de joueurs locaux dans les pays, mais locaux sur le continent.
Voilà donc pour ce match Algérie-Maroc. Le match aller demain, le retour au Maroc avant. Ça va nous permettre de faire la transition pour la Ligue des Champions, puisque c'était la première journée, l'entrée en lice du champion sortant notamment. On va y revenir dans un instant avec Simone Rovera, puisque Liverpool a chuté en Italie face à Naples. Mais il y a également cette performance du Paris Saint-Germain qui a fait un début de saison un peu, on va dire, poussif, inquiétant même pour certains, avec en plus l'absence de certains cadres à l'image de Cavani, toujours blessé, tout comme Mbappé, et Neymar qui était suspendu. Mais malgré cela, eh bien, le PSG a étrié le Real Madrid 3-0. Là, on veut surtout faire la lumière sur la prestation d'un joueur qui vient de rejoindre le PSG, qui était en Angleterre, un ancien du championnat de France. Il s'agit de Idrissa Gueye. Il a été impressionnant mercredi, Hervé.
Très impressionnant, très très impressionnant par sa capacité à faire des efforts, à équilibrer l'équipe, à harceler les porteurs du ballon, à récupérer la balle, à être propre une fois qu'il avait récupéré cette balle. Mais pour moi, pour tout vous dire, c'est pas vraiment une surprise, puisque je l'ai toujours dit, joueur clamé. Je pense que c'est un joueur qui aurait déjà dû rejoindre le Paris Saint-Germain bien avant, mais surtout, c'est un joueur qui arrive, si vous voulez, à hausser son niveau de jeu à chaque fois. C'est pour moi un peu le Matuidi sénégalais, c'est-à-dire Matuidi, il part toujours avec des a priori, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, et puis après, il est titulaire partout. Et bien, Idrissa Gueye, c'est un peu pareil, en étant un peu plus technique en plus, parce que Gueye est quand même plus technique que Matuidi, et il a cette capacité, si vous voulez, à faire briller les autres. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce milieu de terrain a trois récupérateurs, hein, puisque vous aviez Verratti, lui, et Marquinhos, et ben ça permettait quand même enfin à équilibrer cette équipe et enfin à pouvoir avoir un impact sur ce milieu et rayonner dans cette zone qui est évidemment capitale dans le football moderne. Et là, Idrissa Gueye, il a fait sa part et il a étonné bien sûr beaucoup d'observateurs. Ici en France, ça a été un peu la Gueye mania. Vous avez eu du Gueye partout. Mais pour celui qui suit le foot africain et puis celui qui a suivi Everton, Southampton et évidemment Lille, eh bien ce Gueye, c'est pour moi un Gueye, je ne vais pas dire classique, mais qui est capable de ce type de performance. Alors attendez, il ne va pas être à chaque fois à ce niveau-là. Des fois, il sera moins bon, des fois, il sera meilleur. Mais simplement, il a prouvé qu'il était capable de ça. Et quand vous montrez que vous êtes capable de ça, il y a certainement la possibilité de le refaire, le reproduire. Et ça va être certainement le joueur qui manquait l'année dernière dans les phases les plus difficiles, quand à un moment, il va falloir être au turbin, il va falloir récupérer des balles, il va falloir accepter de travailler pour les autres. Parce que sa grande force aussi, c'est qu'il va briller. C'est pas vraiment son but absolu. Lui, ce qu'il veut, c'est faire briller l'équipe. Donc, s'il faut se mettre en retrait, eh ben, il se mettra en retrait. Et l'accolade de Tuchel à la fin du match, quand il va le prendre dans ses bras, il l'embrasse, ça veut dire beaucoup. Il a bien compris que là, il avait un joueur à part, et c'est pour ça qu'il le voulait désespérément en janvier, et qu'on lui avait pris, malheureusement, Paredes, qui avait coûté beaucoup plus cher, mais qui avait été totalement inutile pour ce Paris Saint-Germain-là. Donc, Gueye, c'est la bonne trouvaille de l'été pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, à lui de continuer, à lui d'être, bien sûr, à ce niveau-là, de manière régulière, parce qu'il n'a pas l'habitude non plus de jouer en Ligue des Champions. C'était son 6 ou 7e match de Ligue des Champions. Donc pour lui aussi, c'est une forme de découverte. Maintenant, il a su répondre présent le jour où il fallait répondre présent.
Voilà, donc vous restez avec nous parce que la question, faut-il s'enflammer pour ce Paris Saint-Germain? C'est vrai que c'est une très belle victoire, d'autant plus qu'il y a un match important ce week-end face à Lyon. Vous restez avec nous, Hervé, pour parler de deux autres affiches intéressantes et cela concernait deux équipes italiennes, la Juve qui jouait en Espagne face à l'Atlético et surtout le champion sortant qui se produisait en Italie et Naples a fait chuter Liverpool. Les deux rencontres, comment on a vécu ces deux matchs en Italie, Simone? Simone, il va finir par
répondre. Il y avait beaucoup d'attention, beaucoup même d'émotion pour la victoire de Napoli, parce que on savait que c'était la...
On savait que c'était là, donc on ne connaît pas la suite. On va essayer de savoir c'est quoi la suite à propos de cette rencontre entre Naples et la Juve et également ce match entre l'Atlético et la Juventus de Turin. Simone est de retour. On vous écoute, Simone.
Oui, l'émotion était tellement grande de parler de cette Napoli extraordinaire que j'ai eu besoin de quelques secondes de répondre en plus. Non, mais on savait que pour Napoli, c'était un match important pour voir quel était le niveau. Les premiers gros matchs de la saison, c'était la défaite face à la Juve. Et donc, il y avait vraiment beaucoup d'attention pour ce match face aux champions d'Europe. Et on peut pas nier que Naples était totalement à la hauteur. Au-delà du résultat, de la victoire, c'est la façon de Naples a su gérer la force de Liverpool. Imaginez aujourd'hui que Jürgen Klopp, à la veille du match comme celui face à Chelsea, si je ne me trompe pas, est revenu à parler de Napoli, de la force de Napoli. Donc, il est resté vraiment dans la tête de l'entraîneur allemand que ce Napoli était capable de faire rester muette encore une fois Liverpool en déplacement. On rappelle que l'année dernière, déjà sur un match à domicile, le premier match à domicile, Napoli avait gagné 1-0 face à Liverpool et Liverpool était resté avec 0 tir cadré. Là, quelque chose a été fait par les attaquants de Liverpool, mais les erreurs individuelles de Manolas a ouvert la porte à Salah et c'était, ça a été extraordinaire, Meret, ou encore une contre de Sadio Mané, mais globalement, Naples a été capable d'empêcher au Liverpool de déchaîner sa force, de se déchaîner sur le couloir, de laisser les trois joueurs offensifs à faire mal. Et là aussi, on a parlé d'un super joueur au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye. Et là, il y a un super joueur aussi au Paris, au Naples, et a été Kalidou Koulibaly, qui avait été décevant pour moi sur les deux premières journées de la saison. Compliqué son début de saison, il n'est pas allé en sélection pour travailler, pour se présenter à la hauteur. Et là, Koulibaly, il a mis dans sa poche les trois attaquants de Liverpool, a été capable d'empêcher à une machine offensive de marquer des buts. Mais c'est difficile de trouver vraiment, au-delà de Koulibaly, beaucoup de joueurs ont été à la hauteur. Et pour moi, les vrais champions de ce match est Carlo Ancelotti, qui encore une fois à trouver des solutions offensives et défensives pour mettre Naples au niveau du champion d'Europe. Je ne dis pas que Naples va être la surprise de la Ligue des Champions, mais on est habitué maintenant à voir des belles surprises dans cette compétition européenne, et pourquoi pas Naples ?
Et rapidement, pour ce match de la Juve à Madrid face à l'Atlético, tout semblait bien parti pour cette équipe turinoise, mais à l'arrivée, eh bien, ça fait un match nul heureux. On va dire c'est un bon résultat pour l'Atlético si l'on se fie au scénario de la rencontre. Rapidement, Simone.
Bah oui, au début, la Juve arrive à montrer encore des faiblesses qu'on ne voulait pas voir. C'est 4 buts sur 5 encaissés cette saison, c'est sur coupe de pied arrêté. La Juve avait bien démarré la deuxième mi-temps, première mi-temps équilibrée, deuxième bien maîtrisée, deux buts importants, et après, finale, où pas la qualité, mais les charismes, les caractères de l'Atlético a eu une meilleure force, a été plus fort que la défense de la Juve. Donc beaucoup de choses à revoir pour Sarri, et beaucoup de questions et d'interrogations en Italie sur cette Juve, sur sa qualité effective.
Une dernière question, mais rapidement, il s'agit de l'Inter de Milan qui disputait également, et l'Inter qui se trouve dans le groupe du Barça, mais finalement, ça fait un partout, et là, l'égalisation aussi pendant le temps additionnel, alors que on croyait que, ça y est, l'Inter avait perdu cette rencontre.
Bah, la chose positive qu'on peut dire que l'Inter, oui, a montré un peu de caractère, mais dans les jeux, les 3-5-2 de Conte n'a rien proposé. Les joueurs sur les côtés latéraux, Asamoah Gyökeres, étaient totalement dépassés. On sait que avec Conte, les joueurs dépensent beaucoup d'énergie. Lui, il n'arrive pas à intégrer les nouveaux parce qu'il demande un travail qui dit que certaines, comme Biraghi, comme Lazaro, n'arrivent pas à faire. Et attention, demain soir, il y a les derbies de Milan. Donc, un petit point qui fait un peu du bien. Mais demain, dans les derbies, on va voir la première réponse. Quelle est les vraies valeurs de cet Inter? On rappelle, pour l'instant, seul en tête au classement de la Serie A.
Justement, on aura l'occasion de reparler de ce derby milanais lundi dans l'émission L'Après-Match. Merci beaucoup, Simone Rovera, notre monsieur football italien. Dans un instant, Aurélien, pour nous parler de Liverpool, mais aussi des autres équipes anglaises qui ont fait des débuts un peu, on va dire, poussifs avec cette défaite de Chelsea à domicile, également de Liverpool, le match nul de Tottenham qui menait 2-0. Seul Manchester City s'est imposé. En attendant Aurélien, eh bien, on retrouve Hervé Penaud pour revenir sur le Paris Saint-Germain. Je posais la question tout à l'heure, faut-il s'enflammer parce que le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment rassuré depuis le début de la saison? C'est vrai que l'équipe est amoindrie pour l'instant. Et en plus, se profile un match très important face à une équipe qui alterne le bon et le moins bon et a été accrochée en Ligue des Champions pour ses débuts cette saison. C'est apparemment le 6e nul d'affilée à domicile de Lyon. Puisqu'on parle de Lyon et le PSG, Hervé.
Oui, en Ligue des Champions, oui. Effectivement. Alors, s'enflammer, alors bien entendu, on peut toujours tempérer en expliquant qu'on avait connu ces épisodes absolument euphoriques contre Barcelone, par exemple, avant la fameuse remontada, et le match contre... contre Liverpool, hein, au Parc des Princes aussi, avait été un gros calibre, contre Naples, enfin, contre le Bayern Munich, gagné 3-0. Mais attention, contre le Bayern Munich, il y a eu beaucoup d'occasions des Allemands, ce qui n'a pas été le cas du tout, cette fois-ci, du Real Madrid. Non, on peut s'enflammer pour une chose, c'est de se dire que cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a été façonné de manière plus intelligente cet été, en essayant de prendre des joueurs et non des noms, avoir pris un gardien de but qui avait gagné la Ligue des Champions, donc là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'a pas l'expérience de ce type de situation, plus le fait de garder Neymar, parce que qu'on le veuille ou non, c'est toujours un atout dans votre équipe. On l'a vu pour son retour contre Strasbourg, avec son fameux semi-retourné, comme il l'a appelé, ou demi-retourné. Toujours est-il que tous ces joueurs-là, si collectivement ils arrivent à avoir le même état d'esprit que le match qu'on a vu contre le Real Madrid, eh ben ça va vous faire une sacrée équipe. Alors, sacrée équipe, sacrée casse-tête pour Tuchel, parce que là, il va falloir qu'il fasse des choix. Doit-il rester à trois milieux défensifs, enfin trois milieux, dont deux relayeurs et un milieu défensif, donc ça voudrait dire trois places devant, et la MCN, dans ce cas-là, est morte. Icardi est là aussi. Icardi a peut-être plus de poids sur le plan technique pour jouer avec ses partenaires que Cavani, donc il y aura des vrais choix pour Tuchel. Il n'empêche que, sans vouloir s'enflammer et dire que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions, ça reste quand même, on le savait déjà, un des gros outsiders pour cette compétition. Et surtout, cette fois-ci, on a l'impression qu'on a réussi à donner un peu cet équilibre et ce caractère à cette équipe qui lui manquait. Maintenant, il va falloir que tout de suite, que Neymar, Mbappé, quand ils vont revenir, se mettent dans le même état d'esprit. Parce que tout va dépendre d'eux, parce qu'évidemment qu'ils vont jouer. Hein. C'est pas parce que Sarabia a joué cette fois-ci qu'il prendra la place de Neymar ou de Mbappé. Donc maintenant, tout va rester dans les mains, j'allais dire, de ces grands joueurs. Auront-ils la capacité à se mettre au niveau des autres avec un état d'esprit remarquable, faire les efforts pour les autres, savoir que sans ça, il n'y aura pas de collectif Paris Saint-Germain et donc il n'y aura pas de victoire finale en Ligue des Champions? En seront-ils capables? Moi, je crois qu'à un moment, ils ont tellement été au pied du mur quand même, ces joueurs du Paris Saint-Germain, qu'il y a toujours... Vous remontez, si vous voulez, c'est comme au fond de la piscine. À un moment, il faut bien redescendre et puis à un moment, il faut remonter. Ben, pourquoi pas cette année? C'est-à-dire que peut-être l'année où on l'attendait le moins, hein, puisque rappelons-nous les discours de Leonardo, en étant pas si ambitieux que ça au début de saison. Et puis petit à petit, son discours a légèrement été modifié aussi. Et puis surtout, quand vous voyez sur le papier l'effectif, vous dites, il y a de quoi faire. Il y a vraiment un effectif de très très haut niveau. Donc, allez, on va pas sauter au plafond, mais on peut quand même un petit peu s'enflammer pour le football français.
Voilà. Vous restez avec nous, Hervé, si on a un peu de temps, on va parler de Zidane. On va le faire tout à l'heure dans la deuxième partie avec Frédéric Kermel à Madrid, puisque la presse espagnole, eh bien, certains pensent déjà à l'après Zidane, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, l'Angleterre, Aurélien de Vernon est avec nous. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Et on en parlait tout à l'heure avec Simone. Liverpool, le champion sortant, a chuté en Italie. Chelsea s'est incliné. On a vu les débuts de Chelsea en championnat d'Angleterre déjà. Là, les débuts en Ligue des Champions n'ont pas été à la hauteur. Tottenham, finaliste de la dernière édition, a été accroché après avoir mené au score. Et finalement... C'est City qui a tiré son épingle du jeu. Le bilan de la participation anglaise à cette première journée, on est au mois de septembre, bien sûr, beaucoup de choses devraient changer. Mais comment la presse anglaise a vu les résultats de ses représentants en Ligue des Champions?
C'est décevant, évidemment. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de deux défaites, un nul et une victoire pour une première journée de Ligue des Champions. C'est évident que, surtout au vu des résultats l'an passé, on s'attendait à mieux. Mais on en parlait dès lundi, on savait que ça allait être un petit peu compliqué cette première journée parce qu'il y avait des matchs pas évidents à négocier. Alors Liverpool, encore une fois, a prouvé que cette équipe avait du mal à voyager sur le terrain de grosses équipes. La saison dernière, il y avait eu des défaites à Naples déjà, à Paris, mais aussi à Barcelone. Là, c'est de nouveau un petit peu les mêmes conséquences pour Liverpool qu'on sent... pas toujours à son aise quand il faut subir peut-être un peu plus, pas toujours à son aise aussi défensivement, et ça s'est traduit par cette défaite qui vraiment ne mérite aucune critique. Naples a été largement meilleur que Liverpool sur cette rencontre. Pour ce qui est de Chelsea, les errances un petit peu de Chelsea depuis ce début de saison, les difficultés de Frank Lampard à trouver une stabilité, un équilibre dans son équipe se sont encore vues face à Valence qui pourtant était pas très en forme du côté de l'Espagne. Voilà, il y a eu un pénalty raté en plus par Ross Barkley et c'est au final c'est une défaite parce que c'est une équipe qui là aussi a des vrais déséquilibres, toujours un manque d'assises défensives, un milieu de terrain qui grince un peu, et quand Tammy Abraham met pas 3 buts par rencontre, et ben ça se traduit par une défaite tout simplement. Et puis enfin Tottenham, je vous avais dit que le déplacement à l'Olympiakos allait être compliqué, ça n'a pas manqué. Tottenham avait pourtant bien entamé cette rencontre, mais l'Olympiakos c'est vraiment une équipe intéressante, je trouve, cette saison, et je pense que c'est une équipe qu'il faudra suivre hein, tout au long de cette phase de poule de la Ligue des Champions, parce qu'ils ont vraiment montré qu'ils avaient des vraies qualités à la fois de jeu et puis des qualités mentales pour pouvoir revenir au score face aux finalistes de la saison passée.
Pour parler du week-end rapidement, le championnat déjà, il y a un match intéressant, Chelsea-Liverpool, c'est la principale affiche apparemment. Il y a Manchester City qui a un match à sa portée a priori, ça sera face à Watford.
Oui, Watford qui est dernier du classement, a priori ça devrait pas poser trop de problèmes pour Manchester City, mais attention, hein, la semaine dernière City jouait contre un relégable et ils ont perdu, donc méfiance pour les joueurs de Guardiola. C'est vrai que le choc c'est quand même Chelsea-Liverpool, donc en plus deux équipes qui ont perdu cette semaine en Ligue des Champions, ça va mettre un peu plus de pression sur les épaules de Klopp et de Lampard, même si évidemment les deux équipes sont pas dans la même situation. Liverpool a gagné ses 5 premières rencontres alors que Chelsea navigue à la 6e place avec une défense qui a vraiment des difficultés, hein. 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Bon, il va falloir faire quand même attention face au trio d'attaque de Liverpool. Ça va être intéressant malgré tout parce que Chelsea a quand même un banc qui peut lui permettre de faire tourner par rapport à la Ligue des Champions et d'avoir vraiment des joueurs frais, peut-être un peu plus que Liverpool qui, encore une fois, s'est pas beaucoup renforcé à l'intersaison. Faudra voir ce que ça va donner. Liverpool, ça va être peut-être justement le test, peut-être même déjà pour préparer le mercato de cet hiver, parce que Liverpool vraiment a pas un banc très fourni. Origi en plus s'est blessé. Il va vraiment falloir que les titulaires assure à tous les matchs, et c'est pas forcément facile quand on enchaîne la même semaine un gros déplacement à Naples et un gros déplacement à Chelsea.
Une dernière question, 30 secondes pas plus, Hervé. On l'a vu, les difficultés du Real Madrid et forcément celles de l'entraîneur Zinedine Zidane. On rappellera qu'il a pris l'équipe la saison dernière avant la fin de la saison, et le début comme la fin ne sont pas à la hauteur des attentes des supporters, et à la presse espagnole parle déjà de l'après Zidane. Qu'est-ce qu'on en pense rapidement, Hervé?
Eh ben, on en pense que, vous savez, on évite une idole et on évite déboulonner. Parce que vous vous rendez compte, on parle de Zinedine Zidane, 3 Ligues des Champions. Alors c'est vrai que l'année dernière, il n'a pas réussi à remonter son équipe. Là, cette année, il fait le recrutement qu'il a voulu. J'ose espérer qu'on va lui laisser un petit peu de temps. C'est-à-dire que si Zidane, avec ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il n'est pas capable d'avoir un petit peu plus qu'un match en Ligue des Champions et un début de championnat, si on a confiance en lui, ce qui était visiblement le cas de Florentino Pérez, à un moment, faut le montrer. Et le montrer, ça veut dire c'est faire front dans la tempête. Et évidemment, les médias, bah, ils s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, ce qui est assez logique, puisque c'est l'état d'esprit en Espagne, où assez vite, on peut retourner un peu sa veste. On peut supporter quelqu'un et puis après le désinguer. Ça fait aussi partie du jeu. C'est le jeu médiatique de ce pays avec le football. Maintenant, j'espère quand même qu'il aura un petit peu plus de crédit que 6 matchs début de saison.
Merci beaucoup, Hervé Penaud, notre consultant pour le football français, également africain. Hervé Penaud et également Aurélien Deverre. Pour l'Angleterre, on se retrouve lundi pour l'après-match. Dans un instant, la deuxième partie, direction l'Espagne et l'Allemagne. À tout de suite. La deuxième partie de l'avant-match, toujours notre ami Nagy à la réalisation, toute l'équipe technique. Tout à l'heure, dans la première partie, on a évoqué avec Hervé Penaud et également Simone Rovera, Aurélien de Vernoy, les principaux résultats enregistrés lors de la première journée de la Ligue des Champions. On a également évoqué le championnat d'Afrique des joueurs locaux avec ce choc entre l'Algérie et le Maroc demain à Blida, les éliminatoires du CHAN. La deuxième partie, on ira en Allemagne et également en Espagne, l'Espagne avec notre ami Frédéric Kermel. Bonsoir Fred.
Tu en es un autre d'ami, je veux dire. Toi aussi t'es mon ami.
Tant mieux.
Je suis votre ami, mais toi t'es mon ami.
Ben oui, donc forcément.
Je suis l'ami de David aussi.
Et par transitivité.
Ça va les amis? Oui, il faut.
On est entre amis, bien sûr. Et nos auditeurs aussi, ils sont nombreux. Donc,
Oui.
Voilà, donc, et les auditeurs posent une question. David est là, il n'est pas encore là, donc on attend David qui nous rejoigne. Une question, beaucoup d'auditeurs posent une question. Est-ce que l'avenir. On va y revenir sur les résultats. Mais là, on parle de plus en plus. Vous le savez, on suit beaucoup les émissions, la presse espagnole, tout ce qui se passe, le Real Madrid, Zidane. On parle déjà de l'après-Zidane. Et j'ai lu tout à l'heure, il y a un joueur, un ancien joueur, il est aujourd'hui entraîneur. Il a fait l'essentiel de sa carrière au Barça. Et quand il parle à propos du Real et de Zidane et les gens qui parlent de crise, il dit « J'ai vécu des choses pires que ça. Le Real va revenir. C'est un passage obligatoire. » Et en plus, on est au mois de septembre. C'est même pas la fin septembre, on est au mois de septembre, donc tous les réglages, tout n'est pas parfait. Qu'est-ce qui se passe du côté du Real? Certains parlent de crise, certains parlent de Zizou, certains parlent du marché des transferts. On a vu déjà les matchs amicaux qui n'étaient pas à la hauteur, les débuts également, et là la première sortie en Ligue des Champions, même s'il y avait beaucoup d'absences, et surtout le capitaine de cette équipe, Sergio Ramos. Fred.
Vous savez, moi je vous raconte toujours mes petits secrets, hein, puisqu'on est entre amis. Lundi, j'avais traîné un peu du côté de Valdebebas, et un joueur important m'avait dit « Ah, il n'y a pas Ramos pour mercredi, c'est inquiétant, parce que c'est vraiment le patron, pas simplement techniquement, tactiquement, physiquement, c'est le patron, c'est le leader quoi, de la défense, d'un point de vue émotionnel, voilà, c'est le capitaine qui sonne la charge quand quelque chose ne fonctionne pas. » Et donc c'est vrai que cette volonté de se battre, ce fighting spirit, comme dirait Aurélien Devernois, de Ramos a manqué mercredi, parce que Benzema, lui, s'est battu, Bale s'est battu, mais le reste des joueurs ont été un peu apathiques, et c'est ce qui est inquiétant. Après, le Real en Liga est toujours devant le Barça. Bon, ils sont bien placés à la troisième place, ils sont devant le Barça, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça qui est important. Leur avenir en Ligue des Champions n'est pas du tout compromis. Mais il est évident que le match a laissé un mauvais goût dans la bouche. Oui, il y a une certaine inquiétude à Madrid, c'est normal, parce qu'on a eu l'impression de retrouver les joueurs dans le même état que la saison dernière, totalement amorphe et apathique sur le terrain. Donc Zizou n'a pas encore réussi à réveiller la motivation, ni le physique, ni l'envie de ces joueurs-là, et c'est ça qui dérange.
Voilà donc pour cette question à propos de Zinedine Zidane. Au-delà de la défaite, bien sûr, c'est un chiffre. Le Real n'a pas cadré un seul tir face au Paris Saint-Germain, Fred.
Oui, alors après, moi, les statistiques, j'aime pas trop ça dans le foot. Il n'a pas cadré, mais enfin, il a quand même marqué deux buts qui ont été refusés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu... C'est des tirs cadrés qui ne comptaient pas parce que c'est annulé, mais enfin, ça a compté, ça a marché. Enfin, ils ont quand même réussi à tirer. Et puis, il y a eu quelques occasions, avec notamment une tête de Benzema qui a frôlé le poteau. Donc, non, enfin, je pense que c'est pas une statistique qui est inquiétante. C'est vraiment le sentiment qui reste après ce match. J'insiste là-dessus. Et pour terminer la question de notre auditeur, en tout cas, d'essayer de décrypter un peu cette question, est-ce que Zidane est menacé? Non, pas encore. Non, on est quand même, c'est encore très tôt. Après, si Zidane prend 5-0 à Séville dimanche, s'il prend 5-0 jeudi prochain dans le derby à Wanda Metropolitano et qu'il perd contre Bruges ici dans la prochaine journée de Ligue des Champions, bon, là on pourra se dire que aïe aïe aïe, mais pour l'instant on va être calme quoi.
Le Real qui va affronter Osasuna et également l'Atlético Madrid vers la fin de ce mois. On va rester avec les équipes plutôt espagnoles, puisque eh bien une équipe espagnole qui s'est rendue en Allemagne et qui aurait dû perdre face au Borussia Dortmund. Il s'agit du FC Barcelone. Mais d'abord, on accueille Monsieur Football Allemand, David Lortolari. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir Fred, salut à tous.
Il y avait le Borussia, il y avait le Bayern aussi, mais il y avait d'autres équipes allemandes. Avant de revenir chez Fred et pour parler du Real Madrid qui va affronter le FC Séville dimanche dans un match très important, il y a également la performance, la sortie du Barça. Mais d'abord, ce match Borussia Dortmund face à l'équipe du FC Barcelone. Le Borussia a raté un pénalty, ou plutôt c'est Ter Stegen, le gardien allemand, le meilleur de son équipe, qui a réussi plusieurs parades pour éviter une lourde défaite aux Catalans. Eh bien, le Borussia Dortmund a tout fait, sauf marquer, contrairement au Bayern Munich, David.
Oui, c'est très juste, c'est très juste, et c'est un match qui est vraiment à livrer le jour et la nuit, ou la nuit et le jour, selon du côté où on se place. Le Barça a pris les choses en main d'emblée, logiquement, conformément à ses habitudes de jeu, et on s'est dit à ce moment-là, très tôt dans le match, dans les 5-10 premières minutes, que Borussia Dortmund allait trouver le temps long et allait être obligé de procéder par contre. Il sait le faire, mais on s'est dit que les occasions allaient s'accumuler, et puis finalement, on est arrivé à la mi-temps et Dortmund avait tenu le choc et il a imposé, me semble-t-il, dans la deuxième partie du match, une dimension physique très costaude et des capacités à se procurer une vraie grappe d'occasions avec des situations très très chaudes et qui correspondait à son potentiel avec les attaquants dont on a l'habitude, notamment Paco Alcácer. Alors la difficulté après pour le Borussia Dortmund, c'est de convertir quelques-unes de ces occasions. Il y a le pénalty effectivement qui est un moment clé du match, mais il y a eu aussi des phases de jeu très fluides, très rapides, et au dernier moment, le ballon s'est échappé au-dessus de la transversale. Je pense notamment à l'une des frappes de Paco Alcácer. Et le Borussia Dortmund finalement, oui, peut-être avoir quelques regrets parce qu'il avait les moyens. Alors c'est intéressant parce que avant le match en Allemagne, l'idée qui était la plus largement répandue, c'était que le Borussia était assez nettement favori de ce match-là, et finalement sur les 90 minutes, l'impression qui a été laissée correspond assez bien à cela. Mais maintenant la difficulté bien sûr, c'est de marquer et de s'imposer, ce que le Borussia n'a pas fait.
On va revenir en Allemagne pour parler du Bayern aussi, qui était en lice et qui s'est imposé nettement. Mais une question pour David et une autre pour Fred. Deux questions et deux réponses courtes un peu. On a parlé de Ter Stegen, le meilleur joueur catalan face au Borussia Dortmund. Et forcément, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Et là aussi, sa prestation a relancé le débat. Neuer ou Ter Stegen comme numéro 1 allemand. Et le patron du Bayern a également apporter ses précisions. Côté Barça, on a assisté à un changement, c'est rare, mais Busquets a été remplacé en cours de match et apparemment c'est un signe. D'abord David et on revient vers Fred.
Alors il y a finalement quelqu'un qui compte dans le football allemand, qui a livré hier soir un avis qui me semble être une belle synthèse de l'embrouillamini et de la montée de tension actuellement entre le camp Neuer et le camp Ter Stegen pour garder les buts de la Mannschaft et pour savoir qui est le meilleur des deux. C'est Roman Weidenfeller, l'ancien gardien de Dortmund, qui est désormais consultant dans les médias et qui a livré avec beaucoup beaucoup de calme l'avis qui à mon avis est le bon. C'est que Manuel Neuer conserve un peu d'avance, simplement parce qu'il a retrouvé un très bon niveau et qu'en plus de cela, il a une expérience qui est incomparable. Et en Allemagne, on sait que l'expérience est très valorisée. C'est pourquoi, sur l'opinion publique en général, Manuel Neuer conserve un peu d'avance pour ce qui est de garder les buts de la Mannschaft.
Fred, Busquets qui sort, c'est un match important. Il n'est pas blessé, mais ça confirme que Busquets, le patron du milieu de terrain de cette équipe catalane, a peut-être du mal ces derniers temps et peut-être il y a un changement qui va s'opérer prochainement.
C'est pas que ces derniers temps, je dirais même 2, 3, voire 4 saisons que Sergio Busquets n'est plus au top niveau physique, mais c'est normal, hein. Nous non plus, on n'est plus à notre top physique, hein. Nous aussi, on vieillit,
surtout,
hein, mais, ouais, mais surtout que lui, ça se voit plus sur le terrain que, voilà. Et... Oui, et puis, De Jong a été engagé pour ça, parce que Busquets commence à baisser. Donc, c'est la vie, c'est la vie. C'est pas plus grave que ça, hein. Tous les joueurs connaissent un début, un milieu et une fin. Et là, on peut quand même dire que pour Sergi Busquets, c'est plutôt la fin que le début.
Voilà, donc pour Busquets, il y a un milieu terrain fourni du côté du Barça. On va essayer d'avancer. On reste en Espagne avant de reparler du football allemand. L'Espagne, il y avait une affiche, très belle affiche d'ailleurs, et qui a tenu toutes ses promesses, beaucoup de buts, de l'intensité, du suspense, de partout entre l'Atlético et l'équipe de la Juve, la Juventus de Turin, qui a mené au score grâce notamment à Blaise Matuidi, l'international français, qui a marqué de la tête. C'est rare. C'est une question posée par Fred à l'international français.
Oui, en équipe de France. Ouais. En équipe de France et en club aussi.
Et comment il est venu ce but? Parce que c'était le 2-0. Et puis on a vu avec la réaction de l'Atlético que ce deuxième but, il a compté beaucoup pour ramener un point d'ici.
Le ballon qui bouge de droite à gauche. Et je vois Alexandro partir sur le côté. Et je me dis que je regarde dans la surface. Je vois qu'il n'y avait pas grand monde. Et je me dis c'est l'occasion de s'insérer. J'ai eu la chance que le ballon est bien tombé parce qu'Alex a fait un super centre. Voilà, après, je me trouve au bon endroit et je peux ajuster la tête.
On avait parlé beaucoup d'où, peut-être de difficultés en début de saison, mais là, vous étiez titulaire dans un match qui est quasiment déjà la finale du groupe, hein, plus que les deux favoris. Vous avez bien tenu votre place, vous avez marqué un but. Quel sentiment vous avez en sortant de cette rencontre ?
Non, moi j'ai un sentiment, mitigé parce que on a fait un bon match, vraiment un très bon match. Malheureusement, ils reviennent à 2-2, donc on est déçus après avoir mené 2-0. Mais dans l'ensemble, il faut retenir le positif et je pense qu'on a fait une belle prestation. Après, pour ma part, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai toujours travaillé et comme je le fais depuis des années. Et le plus important, c'est que je me sente bien et que l'équipe ait confiance en moi. Et c'est le cas. Donc je suis content pour ça.
Adrien Rabiot, vous êtes allé le voir pour célébrer le but avec lui ?
Oui, on a une très bonne entente. C'est un nouveau joueur de l'équipe et moi, je le connais très bien. Donc voilà, c'est le début. Il aura lui aussi son temps de jeu et c'est un super joueur. Donc on a vraiment un très beau groupe et on est vraiment unis, c'est le plus important.
Blaise Matuidi, l'international français de la Juve, un joueur. On s'est toujours posé la question, la presse notamment, si Blaise avait sa place à Saint-Etienne, si Blaise a fait sa place au Paris Saint-Germain, à la Juve et en équipe de France, eh bien, c'est un joueur cadre, il fait le travail pour les autres, discret mais toujours efficace. C'est bien résumé, Fred ?
C'est exactement ça et c'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question les pseudo-difficultés de la Juve, parce que on disait qu'il allait perdre sa place. Notamment au profit de Rabiot. Et bon, c'est pas exactement le même joueur. Et en plus, Rabiot, il n'a joué que 28 minutes. Là, il était sur le banc, il n'est pas entré. Et Sarri, l'entraîneur, dit que voilà qu'il faudra un long moment avant qu'il retrouve la compétitivité. Parce que quand on n'entre pas dans la dynamique d'une équipe comme ce fut son cas pendant 6 mois au Paris Saint-Germain, il est loin physiquement, techniquement, enfin, physiquement et psychologiquement de retrouver l'équipe. Donc non, moi je trouve que Matuidi a fait un bon match, un peu en difficulté, un peu nerveux en première période, mais il a mis un but magnifique. Bon, et pour résumer cette rencontre, moi j'ai vraiment pris mon pied, c'était deux grosses écuries européennes, et l'Atlético, c'est la réflexion que je me faisais, a perdu 5-6 joueurs essentiels. Quand vous perdez des lames de cette équipe qui était Diego Godin, Philippe Luis, Juan Fran, Antoine Griezmann. Waouh. Ben finalement, vous gardez l'esprit parce qu'il y a des joueurs comme le petit Joao Félix qui vient d'arriver, comme Jiménez, comme Savic, même Trippier l'anglais qui est arrivé cette saison, cette intersaison, qui finalement hérite de l'esprit de l'Atlético, de ne jamais renoncer, de toujours aller de l'avant et mener 2-0 contre le cours du jeu. Sur des contres des Juventini, ils ont réussi à égaliser et c'est tout à fait logique. Et je disais dans mon article dans l'équipe, dans le journal L'Équipe, l'Atlético a du cœur. Et avec le cœur, parfois, on fait des bons matchs aussi.
Voilà, l'Atlético qui restait sur une défaite face à la Real Sociedad en championnat. On voulait parler de ce match entre le FC Séville et le Real Madrid. Un déplacement toujours difficile pour les Madrilènes, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste une minute pour évoquer le Bayern Munich en Ligue des Champions. Victoire, mais pour les autres représentants allemands, ce n'est pas brillant, David.
Oui, deux défaites historiques même, pour Francfort et pour le Borussia Mönchengladbach hier, complètement,
en Europa
largement
League.
Incompréhensible en tout cas en Europa League, effectivement. Le Bayern, lui, est assez souverain, assez serein, même si, et Fred connaît très bien ça à Madrid, même si l'entraîneur Kovac est toujours sous-estimé, toujours estimé sur la sellette, et pas seulement par les suiveurs. Il se dit que Kovac, on lui cherche déjà un successeur, malgré la belle victoire convaincante quand même du Bayern contre l'Étoile Rouge Belgrade. On a su être patient au Bayern et on a trouvé finalement la clé avec les buteurs souvent habituels, Lewandowski et Kingsley Coman par exemple.
Voilà, Fred, il y a un AG à la réalisation qui nous accorde 45 secondes, juste le temps de parler de ce match Real FC Séville, c'est en terre andalouse, c'est toujours difficile mais le Real se doit de réagir parce que le calendrier est très difficile pour la suite.
Oui, et puis c'est vrai qu'après une claque prise à Paris, le Real ne peut pas se permettre d'en prendre une autre, mais on sait que c'est compliqué d'aller à Séville, qu'il y a en face notamment Lopetegui, qui a une belle revanche à prendre, puisque il y a un an, au moment où je vous parle, il y a un an, il était l'entraîneur de ce Real et il s'est fait virer de manière un peu malpropre. Donc oui, il y a un gros enjeu pour ces deux équipes. Séville est premier de la Liga et veut conserver son poste, mais surtout recevoir le Real, c'est toujours un événement. Donc attention au danger, on va vraiment tester les Madrilènes ce dimanche soir à 21h, heure de Madrid.
Merci beaucoup Frédéric Hermel à Madrid et également David Lortolari, notre monsieur football allemand. On se retrouve dès lundi, c'est la rentrée bien sûr pour la nouvelle grille et également pour l'après-match. Excellent début de soirée à tous, merci également à tous nos auditeurs, Nagy à la réalisation, excellent début de soirée.